C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Un mot, je dirais, sur les opérations de nettoyage de la ville, de déneigement. Je comprends que là, les températures sont complètement différentes, mais je lisais ce matin dans Le Devoir des anciens élus, notamment mon ami Luc Ferrandez, qui commente un peu la situation des derniers jours. Et je comprends tout ça, là, que c'est compliqué, que ça coûte cher, mais il y a deux principes. Un, le déneigement, c'est pas un caprice, c'est une question de sécurité. Il faut être capable de circuler dans une ville. Là, on ne demande pas de ramasser la neige en 24 heures. On vous demande pas, en plein verglas, que les trottoirs soient sécuritaires. On vous demande de faire une job assez uniforme et assez correcte. Que les trottoirs soient sécuritaires puis que les rues soient sécuritaires. Il ne s'agit pas de tomber là dans la dentelle. Et comment se fait-il, notamment pour les trottoirs, là, pour permettre la mobilité des citoyens, qu'il y a des arrondissements qui sont capables de faire un travail correct, dans des délais qui sont acceptables, et que d'autres, ça vaut même pas la peine d'en parler tellement c'est mal fait, c'est de la négligence. Et c'est pas pour rien là, qu'il y a des appels qui rentrent comme ça. Puis c'est pas de tomber dans la panique, dans la démagogie. C'est une réalité. Et malheureusement, ils sont pas gênés pour épicer les comptes de taxes, mais ils sont comme timides pour épicer les trottoirs et épicer également les rues. Alors, je disais ça ce matin, je trouvais ça, tu sais, les médias exagèrent. Ben, promène-toi en ville, là, puis tu vas t'apercevoir que pour te rendre à l'autobus ou en station de métro, puis les arrêts d'autobus qui sont pas dégagés, rien, là, je pense que les Montréalais paient assez cher de taxes pour avoir, disons, un minimum de service. Un minimum de service. L'autre dossier, c'est évidemment la sortie hier du ministre fédéral de la Sécurité publique dans le cadre de la rencontre du cabinet Trudeau, aujourd'hui à Montréal, du gouvernement, où il annonce la tenue, quand même, faut le faire, là, la tenue d'une rencontre au sommet sur le phénomène de vol de voitures au Canada. Et je veux juste vous rappeler quand même que cette rencontre, qui aura lieu en février, arrive alors qu'on découvre de plus en plus les données concernant les vols d'auto. Et là, Ottawa vient d'allumer. Là, ils se rendent compte, eux autres, là, que Montréal, c'est la capitale canadienne des vols d'auto, que le port de Montréal est une passoire et que les sentences sont ridicules et que les opérations policières, il y en a, mais que le phénomène est tellement important qu'on est débordé. Ça fait des mois qu'on répète ça. L'année qui s'amorce a été précédée, 2023, probablement du nombre le plus élevé de voitures. Le responsable du SPVN nous disait vendredi que c'est à peu près 1000 voitures par mois de volées à Montréal. Tous ces véhicules ne finissent pas dans un conteneur. Mais il y en a beaucoup, là. Je vous rappelle que 400 véhicules qui ont été retrouvés dans un port en Italie. C'est pas une coïncidence. Et là, on comprend que les libéraux sont un peu paniqués parce que les sondages sont pas bons. Poilievre est en avance par 12-15 points facilement sur le gouvernement sortant. Et là, le discours que vous allez entendre, c'est celui qui va faire plaisir, je lisais ça ce matin dans le Globe and Mail, à la classe moyenne. Donc, des mesures moins éparpillées, des mesures plus ciblées. François-Philippe Champagne est sorti en disant « On veut qu'il y ait de la compétition dans le monde de l'épicerie. » Les gens au gouvernement, les conseillers, savent très bien que la voiture qui touche combien de Québécois à Montréal, combien de gens sont inquiets parce que les primes d'assurance augmentent, puis tout ça, parce que tellement de vols de voitures. Fait que là, le discours politique risque pas mal de tourner autour de ces préoccupations assez concrètes, assez terre-à-terre, et on veut un gouvernement plus ordonné dans sa façon d'opérer. Et là, ce matin, on prévoit d'ailleurs, autre dossier chaud, celui de l'immigration, où le ministre Mark Miller est supposé faire une annonce. On ne sait pas quoi exactement. Radio-Canada dit que ça pourrait tourner autour du nombre d'étudiants étrangers. C'est le même ministre qui, la semaine passée, nous a dit il y a 20 % des étudiants qui ne sont pas inscrits dans des collèges et des universités. Où sont-ils? Est-ce qu'il y en a trop? Et vous l'avez vu la semaine dernière avec cette lettre de François Legault à Justin Trudeau en disant, pour ce qui est des demandeurs d'asile, des réfugiés, mais là, c'est pas vrai qu'on va accueillir 50% de ces réfugiés au Québec, puis c'est pas vrai qu'on va payer l'ensemble de la facture. Il faut changer la façon de procéder. Et là, il y a comme une volonté, à tout le moins, du côté fédéral, probablement d'en discuter. Pablo Rodriguez, qui dit, c'est le lieutenant du Québec, c'est constructif comme approche. Et ce matin, un peu en écho au Conseil du patronat, on voit dans le Journal de Montréal que le nombre de travailleurs immigrants temporaires a explosé en 2 ans pour atteindre 22 700. Et on a toujours l'image du travailleur dans les champs, dans le monde agricole. C'est vrai que longtemps ça a été ça, mais la pénurie de main-d'œuvre fait qu'on se tourne vers l'étranger pour aller chercher, par exemple, même chez Desjardins, des spécialistes en technologie de l'information. Donc, dans des entreprises qui, normalement, font pas affaire avec l'étranger pour combler les besoins en termes de main-d'œuvre. Et c'est sûr qu'avec le vieillissement de la population, cet appel à l'international va être de plus en plus entendu. Mais là, il faut voir comment on est capable de recevoir cette nouvelle main-d'œuvre. Et je le sais que depuis la semaine dernière, c'est un débat extrêmement sensible, l'immigration. C'est pas vrai que la pénurie de logements est causée par l'arrivée massive d'immigrants. C'est un enjeu. Les taux d'intérêt, c'est un autre enjeu. Les procédures bureaucratiques dans les villes, c'est un enjeu. Donc, c'est faux d'attribuer un problème comme celui du logement à la venue strictement d'immigrants. Ça fait partie de la donne. Tu peux pas à Montréal avoir 100 000 personnes de plus puis penser que ça met pas une pression sur les logements, mais ce n'est pas que ça. Parlons un peu d'éducation ce matin. Bon, les votes continuent, on aura le portrait final en février. Mais ce qui est intéressant, c'est dans la presse, le portrait des écoles secondaires de Montréal qui change. Et des écoles qu'on qualifiait, il n'y a pas si longtemps, d'écoles multiethniques avec des gens venant de différents pays, sont de plus en plus homogènes, mais avec un groupe ethnique qui est majoritaire dans l'école. Et ça a un effet direct sur, je dirais, le portrait scolaire de Montréal. Ainsi, on découvre qu'avant le français, c'est l'arabe qui est la langue la plus importante du plus grand nombre d'élèves dans les écoles secondaires Pierre Laporte, Émile Legault et Antoine de Saint-Exupéry. Au collège Saint-Louis, une école publique de Lachine qui a un programme d'éducation internationale, 140 mères d'élèves sont nées au Québec, 251 sont nées en Chine. Les Québécois de langue maternelle française sont largement majoritaires dans plusieurs écoles privées de la métropole. Et ça va aussi avec le changement dans la composition ethnique de certains quartiers. Des quartiers qui étaient occupés jadis par une communauté italienne très forte, par exemple, ben ils sont allés ailleurs et ce sont des gens qui viennent du Maghreb qui se sont installés dans certains coins de Montréal et ça a un effet direct sur la composition des écoles. Et il y a des francophones qui voient l'école changer, qui se disent... Mon fils, ma fille va être en minorité dans l'école. Je l'envoie ailleurs dans une école privée, par exemple, où il y a un intérêt. C'est intéressant de lire aussi ce que ça veut dire sur la cohabitation dans une même école et sur les enjeux d'intégration. Puis ce qui est prouvé, démontré, béton, c'est que la loi 101 a donné des résultats pour permettre l'apprentissage du français chez les nouveaux arrivants. Et là, on parle, bien sûr, de la première génération, mais surtout de la deuxième puis de la troisième vague. Les immigrants parlent français, ceux de la deuxième génération, fils et filles d'eux, principalement. Est-ce qu'ils s'intéressent à la culture québécoise? Pas tant. Est-ce que les jeunes Québécois francophones s'intéressent à la culture québécoise? Je serais curieux de voir, probablement un peu plus. Mais souvent, l'expression « citoyen du monde », j'écoute de la musique qui vient d'ailleurs, ce qui se passe ici m'intéresse pas, c'est quand même une réalité. Secteur de la santé, ce matin, dans le Journal de Montréal, on nous parle d'un cas d'un monsieur qui a un cancer et on a tardé à l'opérer. Là, la chirurgie va avoir lieu, mais le cancer a progressé et ça complique l'intervention et aussi le pronostic qui est plus ou moins, disons, bon pour ce monsieur-là, qui est un homme de 56 ans, qui s'appelle Serge Couvrette. Et on l'a dit à plusieurs reprises, on a parlé à des médecins qui gèrent les listes d'attente. Et malheureusement, ça a des effets directs sur la santé des patients. Des patients qui arrivent chez le médecin spécialiste et qui, je dirais, sont plus abîmés que normalement ils auraient dû l'être, là, et qu'on a tardé, et que là, on doit passer à un autre type d'intervention pour les soigner. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Puis je vous rappelle que la liste d'attente ne cesse d'augmenter. J'ai vu en fin de semaine dans la presse cet article là, sur la collusion entre les agences privées. C'est une collusion présumée là pour faire monter les prix. Et il faut faire attention, c'est l'autorité des marchés publics qui mène l'enquête, puis on pourrait annuler des contrats. Puis c'est toujours le même truc, là. C'est-à-dire que vous avez quelques joueurs qui veulent se partager le marché. Quand il y a appel d'offres, on s'entend. Puis toi, tu es la soumission de complaisance, là, c'est-à-dire que tu l'auras pas puis tu le sais. Mais comme j'ai pas assez de personnel, j'irai piger dans ta gang pour être capable de remplir le contrat, puis bon. Alors, personne de reconnu coupable, ce sont des allégations qui vont mener peut-être à des révocations d'entente. Et ça arrive aussi dans ce contexte où on a su que pendant la pandémie, il y a des agences qui se sont pas gênées pour surfacturer le gouvernement du Québec. Puis de l'autre côté, vous avez la volonté du gouvernement de ne plus faire affaire avec les agences privées. Et ça m'amène à vous parler un peu par la bande de la négociation dans l'éducation et en santé. Si je prends les votes qui se déroulent actuellement là dans le monde de l'éducation, la plupart des profs sont satisfaits des conditions salariales. Là, je parle pas de l'insatisfaction de certains groupes dans le Front commun. Là. Si je parle des enseignants dans les écoles, grosso modo, ont l'air de dire c'est correct pour ce qui est des avantages puis des augmentations de salaire. Là où ça marche pas, c'est la composition de la classe. Puis dans le réseau de la santé, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que l'augmentation, les augmentations consenties, le rattrapage, les primes, ça semble être correct. Là où ça accroche, les ratios, donc la surcharge de travail et l'environnement de travail. Moi, je dis, je veux bien tout ça, là. Mais si t'es l'employeur, puis t'es pas capable d'embaucher des gens, ils veulent pas venir pour toutes sortes de raisons. Alors, je dis au syndicat, OK, comment vous faites, si moi je suis prêt à embaucher des gens, là, comment vous faites pour m'amener des travailleurs puis des travailleuses en éducation puis dans le réseau de la santé? Je vais les embaucher, dites-moi comment. Là, les conditions salariales sont bonnes. Plus il y a de monde, plus l'organisation du travail va être moins stressante. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Je pense que ça mérite au moins d'en discuter, puis sans doute pas dans le cadre d'une négociation. Puis, je fais juste rappeler quelques événements historiques. On a une crise en éducation, puis une crise en santé. Historiquement, il y a eu ce qu'on appelle des grands sommets. On le voit là avec le logement. Je me souviens de René Lévesque, qui avait réuni Paul Desmarais, Power Corp, puis Louis Laberge de la FTQ. Et ça a donné lieu à des programmes pour stimuler la construction. Le Fonds de solidarité de la FTQ est arrivé un peu dans cette mouvance. Après, il y a eu sommet également avec Lucien Bouchard pour dire comment on fait le ménage des finances publiques, comment on est capable de faire ça. Est-ce qu'il n'est pas un peu venu le moment d'avoir ces rencontres avec les joueurs, pas dans le cadre d'un contrat de travail, mais d'une réflexion sur l'aménagement du réseau de la santé et l'aménagement du réseau de l'éducation. D'autre part, j'ai vu ça en fin de semaine, trouvé ça assez bizarre. Michel Labrec, le patron du Stade olympique, s'en va. Il n'y a pas de renouvellement de mandat. Puis sincèrement, en lisant ça, ça dit, l'article, la presse dit, ben, il n'y a pas l'intention de solliciter un nouveau mandat. Ça se termine dans quelques semaines, puis il va appuyer la nouvelle personne dans la transition. OK. Si, et c'est pour ça que c'est pas clair, là, est-ce que c'est son choix de s'en aller ou pas? Labrec est probablement le meilleur vendeur du Stade olympique qu'on a vu. Il a revampé la place, il a redonné de l'amour au stade. Je comprends que les enjeux, là, la toiture du stade, les travaux qui se font actuellement, c'est à coups de centaines de millions qu'on va devoir investir. Mais disons, pour redonner ses lettres de noblesse au stade, il a joué un rôle clé. Et j'espère que c'est son choix, qu'on le pousse pas vers la porte. En tout cas, ça demeure mystérieux. On attend la décision de la Banque du Canada dans les prochains jours, mercredi, concernant les taux d'intérêt. On prévoit pas de baisse parce que l'inflation est encore un enjeu. Mais quand même, peut-être d'ici la fin de l'année, on va pouvoir respirer un peu parce que ça demeure extrêmement préoccupant. Rapidement sur les autres dossiers. Aux États-Unis, Ron DeSantis, le gouverneur de la Floride, qui se retire de la course à la Maison-Blanche, il ne reste plus que Donald Trump et une femme. C'est d'ailleurs ce qu'elle a dit hier. Nikki Haley, qui est la seule à rester en piste contre Trump, sinon c'est le couronnement. Et on sent le ton entre les deux. Nikki Haley qui a dit hier, écoutez là, on se retrouve avec deux vieux monsieur qui veulent la Maison-Blanche et deux vieux monsieur qui vont avoir 80 et plus. Et malheureusement, il y a des enjeux cognitifs. Il faut pas avoir peur d'en parler. Puis est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est le genre de président pour l'avenir qui nous intéresse? Et c'est sûr qu'elle se bat au New Hampshire, les primaires demain. Elle est loin derrière Trump. Est-ce qu'elle va être capable de rester en selle et poursuivre pendant un certain temps? Évidemment, ça reste à voir. Et puis, je vous le disais, Jean-François Lépine sera avec nous ce matin. On va revenir, entre autres, sur la guerre entre Israël et le Hamas. Les chiffres qui ont été rendus publics en fin de semaine, 25 000 personnes ont perdu la vie, sans compter des dizaines et des dizaines de milliers d'autres qui ont été blessés. Et puis, pour ce qui est de la guerre en Ukraine, dont on parle pas assez souvent, on estime à 20 000 le nombre d'enfants ukrainiens qui ont été envoyés de force en Russie depuis le début de cette guerre. 400 seulement ont été rapatriés. Et Moscou va devoir s'expliquer aux Nations Unies pourquoi avoir pris ces enfants, qu'est-ce qu'ils sont devenus. On sait que la théorie de Moscou, enfin l'argumentaire de Moscou, c'est de dire on voulait protéger les enfants des combats. Disons que c'est un raccourci, là. Il n'y a pas grand monde qui pense que c'est bien.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
Hydro-Québec fait la manchette pour toutes sortes de raisons. Est-ce qu'on est en train de démanteler le monopole pour permettre à des producteurs privés de vendre directement de l'électricité? Est-ce que Hydro-Québec va être capable de répondre à nos besoins? Il y a plusieurs dossiers connexes à tout ça. Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie est avec nous ce matin, Pierre Fitzgibbon. Monsieur Fitzgibbon, bonjour.
Bon matin, Monsieur Arcand.
Première question. On a vu dans l'ouest du pays des producteurs, là, des fournisseurs, en Alberta notamment, craindre de perdre la capacité de fournir l'électricité par des périodes de grand froid. Ils ont pensé à faire du délestage. Ils ont donné des avis. Il y a une agence qui dit que Hydro-Québec pourrait se retrouver dans une situation, disons, de fragilité. Est-ce que c'est vrai qu'on pourrait avoir du délestage à faire en période de grand froid?
Écoutez, il y a toujours un risque. On se rappelle l'année dernière, au mois de mars, on avait eu, je pense, 44 000 mégawatts d'utilisation, alors que la capacité était techniquement 40. Mais Hydro-Québec prend des mesures. D'ailleurs, il y a eu un contrat qui a été signé avec l'Ontario. Si vous vous rappelez, de plusieurs 600 mégawatts, on peut contrecarrer notre pointe qui est l'hiver et la pointe de l'Ontario qui est l'été. Donc, Hydro-Québec prend des mesures pour se protéger. Et moi, je suis confiant qu'on peut, on va arriver à ne pas délester. Il faut avoir une prudence de consommation énergétique, on le sait.
Mais moi, je l'ai. Mais est-ce qu'il faut être plus prudent maintenant que jamais?
Ben écoutez, le réseau permet un nombre maximum de mégawatts en puissance. Il faut faire attention dans certaines périodes, mais c'est limité. Mais encore une fois, je pense que les contrats d'approvisionnement d'échange avec l'Ontario vont nous permettre de contrecarrer une grande partie du potentiel.
Ouais, l'image qu'ont les gens, là, c'est qu'on fait des ententes avec des entreprises, on va les alimenter en électricité, puis c'est le consommateur qui va être pénalisé.
Bon, ça, j'aimerais peut-être corriger, parce que de plus en plus, les contrats qu'Hydro-Québec va signé avec les entreprises, demande aux entreprises de s'effacer durant les périodes de pointe. Moi, depuis que je suis en poste, tous les octrois qui ont été faits, la plupart on impose aux entreprises, quand il va faire froid au Québec, là, au mois de janvier, là, vous allez vous effacer en partie du réseau pour permettre
réduire votre consommation.
Exact. Pour permettre justement que les hôpitaux, les écoles, les résidences soient fournis par l'électricité. Donc, je pense que l'Hydro-Québec gère très bien ça et les contrats reflètent cette nouvelle réalité.
OK. On apprenait vendredi par Radio-Canada que vous avez l'intention de permettre à des producteurs privés d'électricité de vendre à d'autres entreprises directement de l'électricité par un projet de loi que vous allez déposer. Est-ce que c'est vrai?
Ben, non, mais premièrement, il faut faire attention. Le débat va avoir lieu bientôt quand je vais déposer le projet de loi. Ce que je peux dire aujourd'hui, je ne vais pas divulguer le projet de loi en question, qui n'est même pas encore complété, en fait, c'est que pour le gouvernement, la stratégie, autant au niveau de la production, du transport et de la distribution, va passer par Hydro-Québec. Il faut juste éviter des campagnes de peur. Et le projet de loi, on va le faire avec la consultation. On a consulté plus de 70 experts l'été, au printemps dernier. On a des consultations écrites, on a des autochtones, donc c'est très sérieux comme processus. Et le débat aura lieu. Parce qu'effectivement, c'est un sujet qui est très sensible pour les Québécois, à juste titre. La transition énergétique, les manques d'électricité présentement pour les projets décarbonation et les projets industriels requièrent qu'il y ait une flexibilité, mais l'engin va demeurer à Hydro-Québec. Puis si vous me permettez, juste pour mettre les faits aussi, le monopole de la distribution, c'est un monopole attribué qui ne changera pas. La distribution, c'est uniquement Hydro-Québec. Le monopole du transport, mais c'est un monopole naturel. Puis il n'y a personne qui va venir compétitionner Hydro-Québec pour faire du transport d'électricité. Par contre, la production, bien, c'est un quasi-monopole. Puis on retourne à Adélard Godbout, on retourne même à M. René Lévesque, que j'admire beaucoup. On a permis depuis toujours d'avoir la production privée. Ça demeure l'exception. Et ça va demeurer l'exception. Mais on est dans une situation problématique où, malgré le plan très ambitieux de M. Sébia, qui parle de donner 8 à 9 000 mégawatts d'ici 2035, on a 10 000 mégawatts aujourd'hui de besoin. Certes, il y a des projets qu'on pourrait ne pas vouloir faire, donc il faut être flexible.
Mais prenons un exemple. Vous m'avez déjà dit, là, la crypto-monnaie, ça me tente pas de faire des concessions pour attirer ce genre d'entreprise-là. Donc, une entreprise de crypto-monnaie pourrait dire, je viens au Québec, vous voulez pas me vendre l'électricité? Parfait. Moi, je fais affaire avec un producteur privé qui va me vendre l'électricité. Ça, est-ce que ça pourrait arriver?
Non. Parce que, premièrement, crypto, c'est un mauvais exemple, parce qu'on a mis dans la loi carrément, ou dans le règlement, j'aimerais dire plutôt, que nous n'en voulons pas. Alors ça, c'est hors de question. Par contre, la question suivante. Présentement, on permet à un producteur de faire l'électricité sur un terrain privé pour usage exclusif à son entreprise sans passer par le réseau. La problématique, ça ne changera pas, on ne permettra pas à un producteur, par exemple, à cette île, de mettre des éoliens puis de vendre son électricité à Châteauguay. Jamais on va permettre qu'un producteur privé utilise le réseau de transport d'Hydro-Québec, qui est notre sécurité énergétique qu'on ne veut pas faire. Par contre, des réseaux privés pour une utilisation privée, c'est permis et en fait, on l'encourage. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans la loi pour permettre peut-être la prolifération de tout ça? On va en discuter, il n'y a pas rien décidé, mais jamais on va mettre en péril le monopole d'Hydro-Québec sur le transport ou sa distribution. Jamais il va y avoir des réseaux concurrents. Par contre, on est face à une situation où moi, j'étais récemment avec un CEO qui me disait, moi, je veux de l'électricité pour décarboner. Je n'aurai pas avant 5 ans. Est-ce que je peux faire de l'électricité sur mon terrain? Mais premièrement, on ne parle pas de barrage, on parle d'éolien. Ben, bon, c'est oui, vous pouvez le faire. Alors, je pense qu'il faut encourager ça, mais il faut garder le cadre très, très rigoureux qu'Hydro-Québec doit être le seul distributeur et le seul transporteur d'électricité. Sinon, si on ouvre ça, là, il va y avoir une brèche. Et oui, il y aurait une dénationalisation, mais on n'est pas là du tout, du tout.
C'est pas votre intention d'aller là?
Pas en tout.
OK. Est-ce que le paysage va changer? J'ai encore lu en 20 semaines qu'il y aurait des lignes de transmission qui viendraient s'ajouter. Est-ce que c'est dans les cartons là, que ça se peut qu'il y ait un pylône qui s'installe pas loin de chez nous?
Bon, premièrement, il est clair, le plan de M. Sébia, vous vous en rappelez, au mois de novembre, un plan très ambitieux. On parle de dépenses en immobilisation de 150 à 160 milliards parce qu'il doit livrer 9 000 mégawatts pour décarboner pour l'industrie. Alors, c'est sûr qu'Hydro-Québec, c'est Hydro-Québec qui va faire ça, ça sera pas vous et moi dans le privé, vont devoir augmenter la capacité de transmission. Clairement. On va voir aussi des projets éoliens. Mais ne pas oublier que les projets éoliens, parce que la nouvelle électricité que le privé va pouvoir faire, Si on parle d'éolien là, ou du solaire, il n'y a pas de barrage. Alors, il va falloir que ça passe par des processus d'impact environnementaux pour le côté environnement. Donc, c'est clair que tous ces projets-là vont avoir des processus très rigoureux de la part du ministère de l'Environnement pour être sûr qu'on n'ait pas des choses n'importe où. Là. Alors, moi, je pense qu'il faut faire attention. Puis, attends, on aura le débat, puis ça va être un débat intéressant parce que c'est tellement important pour nous d'avoir une flexibilité accrue. J'arrive, je suis allé à Dubaï, je suis allé à Davos, on ne parle que de ça. Dans le monde entier, la capacité énergétique d'énergie renouvelable, c'est le sujet de tout le monde. Alors, on n'est pas différent des autres. Alors, il faut avoir une certaine flexibilité. Il faut regarder ce qui se passe dans le monde. Moi, j'ai rencontré le ministre de l'énergie de Belgique, de la Suède. J'ai rencontré un paquet de ministres d'énergie pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis c'est un phénomène assez important et stratégique qu'il faut bien faire. Et il faut, pour conclure, respecter le monopole, mais respecter aussi la rigueur de Québec. Mais il faut être flexible.
Faut être flexible, on comprend. Prenons le cas de Norvolt. Là, il y a une injonction qui est demandée, on suspend les travaux d'abattage. Parlons pas du fond, là. Parlons de la forme. Est-ce qu'on est allé trop vite? Pas de BAP, on coupe les arbres, on sait pas trop, il y a une permission qui est donnée. On comprend l'idée, l'implantation là, de cette usine, cette filière batterie. Mais dans la pratique, est-ce qu'on n'est pas été un peu cow-boy?
Ben, écoutez, la réponse, moi, je vais dire non, là. Mais je pense aussi qu'il faut relativiser. Là, premièrement, il y a une injonction qui va être rendue demain, donc je vais être prudent, là, le dossier est judiciarisé. Mais il faut faire attention. M. Guilbeault, en fin de semaine, avait un très bon commentaire. L'acceptabilité sociale, là, ça peut être élastique. Là, puis on peut se servir de toutes sortes de raisons pour dire non à un projet. Norvolt, c'est une compagnie qui est très sérieuse. Ils sont très affectés présentement par un élan d'hostilité un peu. Puis, tu sais, c'est malheureux parce que leurs valeurs sont tellement différentes. Alors, moi, je pense qu'il faut faire attention. C'est un projet qui va être écologiquement viable. Le ministère de l'Environnement va être très clair sur l'explication. Il y a des normes environnementales qu'ils vont devoir respecter. Alors, ce projet-là, selon moi, bon, mais là, je vais arrêter là parce qu'on va laisser le juge.
Mais pourquoi
est-ce
qu'on n'a pas fait un BAP?
Il n'y a pas besoin, il n'y a pas les règles, il ne le requiert pas. Mais les normes environnementales doivent être respectées. Alors, on va laisser les gens continuer, mais moi, je pense qu'il faut faire attention parce que moi, ma crainte, c'est qu'on touche un peu à la crédibilité du Québec, à l'extérieur du Québec. Mais alors, ça étant dit, il faut faire les choses dans les règles. Et Norvolt, quand on regarde la société, ils sont très rigoureux. Leurs valeurs, selon moi, c'est les valeurs que nous voulions pour le développement économique du Québec.
OK, mais êtes-vous en train de me dire que Norvolt pourrait reconsidérer son investissement au Québec s'il sent un peu trop de pression environnementale?
Je n'irai pas là ce matin, là, puis on va attendre de voir le développement. Là, mais disons que j'ai eu des discussions, puis les gens clairement se questionnent. Est-ce qu'on est bienvenu au Québec?
Puis est-ce que vous êtes inquiet du message que ça envoie aux autres investisseurs potentiels?
Absolument.
On vous le dit, ça.
Ben, clairement. Même ça étant dit, je suis un qui veut défendre aussi nos enjeux environnementaux. Mon collègue, Benoît Charest, et moi, en parle régulièrement, c'est lui qui décide. Puis moi, je suis très respectueux de ça. Faut pas être des cow-boys. Ben, maintenant, faut faire attention. Parce que le débat peut être souvent un peu simpliste quand on regarde ça. Puis moi, encore une fois, je vais arrêter là parce qu'on va laisser le juge décider. Là, mais je pense qu'il faut comprendre l'environnement. Faut comprendre ce qu'est le terrain en question. Il faut comprendre les intentions de Norvolt. Il faut comprendre aussi que les règles très strictes ou des normes vont être respectées, BAP ou non. Un BAP, c'est un processus pour revoir d'autres enjeux, mais à la base, les requis du ministère de l'Environnement pour Norvolt et pour toutes les autres usines vont être respectés. À défaut de quoi, il y aura des mesures négatives.
Est-ce que le Québec a été, avec le fédéral, là, les deux juridictions les plus généreuses avec Norvolt en termes d'aide financière pour l'implantation de l'usine par rapport aux autres investissements de Norvolt en Suède, notamment?
Ben, écoutez, il y a eu un débat récemment sur l'Allemagne qui aura été possiblement moins généreux qu'on a vu au Québec, au Canada. Au Canada, comme vous savez, il y a trois projets qui ont demandé des aides accrues. On parle de Stellantis, on parle de Volkswagen, puis on parle de Norvolt. Tous les autres projets, en passant, les engagements financiers du gouvernement, puis je vais être public bientôt avec un tableau, parce que je pense que c'est important de le démystifier, sont très, très normales par rapport à ce qui se fait partout. Dans le cas de la filière des cellules de batterie, oui, il y a une décision du gouvernement canadien et de l'Ontario du Québec de dire « nous allons être un peu plus agressifs pour contrecarrer un peu ce que l'RRE, le fameux projet de M. Biden, a fait pour réindustrialiser les États-Unis, puis on voit ce qui se passe aux États-Unis. » Donc, on a décidé de faire pour trois projets, je pense que c'est une très bonne décision. Le retour sur l'investissement va être plus long, on parle de 10 ans, 12 ans, Mais bon, encore une fois, les batteries, il n'y a pas grand monde, je pense, qui questionne des batteries. Il va en avoir dans 20, 30, 40 ans. Donc, je pense qu'on construit, on bâtit au Québec quelque chose de très structurant. J'espère pouvoir faire d'autres annonces bientôt qui n'auront pas à faire avec le fameux RRE. On va retourner dans les normes plus traditionnelles. Alors, moi, je pense que le Nordvolt, c'est notre ancrage pour une nouvelle filière qui est excessivement, pour moi, stratégique et écologique pour le Québec.
Je vous amène ailleurs. Je veux parler d'immigration parce que c'est un débat important. Votre premier ministre a envoyé une lettre à M. Trudeau concernant les réfugiés. Il y a des... c'est tout le débat sur le nombre d'immigrants qu'on laisse entrer. Il y a des chiffres ce matin sur les travailleurs temporaires qui viennent ici pour combler des emplois. Conseil du patronat qui dit « Fermez pas les frontières, on a besoin de main-d'œuvre ». Vous, vous pensez quoi? On laisse entrer plus de monde parce qu'on a des jobs à combler ou il faut faire attention?
Il faut faire attention, clairement. Et je pense que ce qu'on voit beaucoup, le rapport de la Banque nationale que j'ai lu et d'autres rapports, l'immigration doit être complémentée par des politiques pour les logements, des politiques pour l'éducation. Alors, je pense qu'il faut être très prudent. Moi, ce qui m'a surpris, mais là, je vais laisser Mme Fréchette vraiment gérer ce dossier-là. Là, j'en ai beaucoup sur ma table. Mais je regarde les demandeurs d'asile. Clairement, il y a un enjeu là. Il faut prendre des gens comme ça au Québec. C'est notre devoir moral, mais en même temps, le pourcentage qu'on a par rapport au reste du Canada me semble très élevé. Alors oui, il faut être prudent. Oui, il faut que les capitaux en corrélation à ça, le logement et l'éducation, je me répète, soient au rendez-vous parce que sinon, il va y avoir une dichotomie. Mais en même temps, la démographie du Québec est telle que l'immigration ciblée de gens qui vont s'intégrer au Québec, c'est aussi requis. Il faut que les deux aillent en même temps. Là.
Mais comme les travailleurs temporaires, l'image qu'on a, ça se passe dans les champs puis en agriculture. Là, on se rend compte que c'est des jardins aussi pour les technologies de l'information. C'est que le besoin est là de ce type de main-d'œuvre.
Et je pense que, j'en ai un autre point aussi, je pense ce qui est important, c'est que je pense que la numérisation, la robotisation, on en parle beaucoup, là, mais on voit aujourd'hui la pression mondiale. Parce que c'est pas seulement le Québec qui a ces problèmes-là. Hein. J'arrive d'Avas, là, puis c'est tout le monde a le même problème. La démographie mondiale, sauf les pays en développement, n'est pas là. Donc, on voit une accélération des méthodes plus contemporaines, technologiques, pour réduire la main-d'œuvre ou à tout le moins ne pas augmenter la main-d'œuvre. Et là, moi, quand on me parle de création d'emplois, c'est même pas un critère pour moi. Ce qui est important, c'est de voir nos entreprises être plus aptes au niveau technologique. Alors, ça, ce que vous mentionnez, va forcer l'adhésion accrue aux technologies. Je pense qu'il va être bon pour tout le monde.
En terminant, quand vous avez fait Infoman, lequel est le plus réaliste? Jean-René Dufort ou Marc Labrèche? Lequel faisait le meilleur fit?
Ben, je pense que ben, les deux, je respecte les deux. J'ai été surpris de voir M. Labrèche là, ben, que j'adore comme humoriste. Mais je dois avouer que les deux avaient des caractéristiques qui me ressemblaient. Et M. Labrèche peut-être un peu plus.
Puis pourquoi vous avez dit oui?
Bah.
Moi, pas reconnu comme un comique, là.
Non, je suis pas comique du tout, en fait, mais je trouvais ça intéressant. L'autodérision, je suis pas contre ça.
Merci d'être venu ce matin. Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcan.
Les vols de voitures. Pas besoin de faire un grand dessin ce matin pour savoir que les vols sont nombreux. Le SPVM nous parlait d'à peu près 1000 véhicules volés chaque mois à Montréal. On a vu cette saisie en Italie pour 22 millions d'euros de voitures, 400 véhicules. Des voitures volées en Colombie-Britannique, volées par exemple dans la région de Toronto qui se retrouve ici au port de Montréal. Et visiblement, le port de Montréal est une passoire pour les voleurs qui sont organisés. Hier, le fédéral a annoncé pour février une rencontre au sommet justement pour faire face à cette réalité qui, je vous dirais, là, montre un déclin prononcé depuis la dernière année, deux ou trois ans même, alors qu'il y a une augmentation considérable du nombre de vols de véhicules. Le ministre fédéral de la Sécurité publique est avec nous, Dominique Leblanc. Monsieur Leblanc, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
D'abord, une journée au sommet pour parler de quoi exactement? On peut s'attendre à quoi comme mesure concrète?
Ben, très bonne question, parce que la façon d'attaquer à ce fléau, qui devient d'ailleurs de plus en plus violent en termes de crimes organisés transnationaux, il y a énormément de pression sur les compagnies d'assurance. Ça devient un problème, franchement, qui nécessite un travail de partenariat. C'est pas la GRC ou les services frontaliers à un port seulement qu'ils peuvent attaquer. On peut faire davantage des choses. Il faut travailler avec des partenaires, corps policiers, que ce soit la Sûreté de Québec, la police de Montréal, comme vous avez bien dit. J'étais très content que mon homologue au Québec, François Bonnartel, sera avec nous lors de la rencontre. Lui a soulevé, et nos collègues ont parlé de ça à la réunion que M. Bonnartel a eue à Bromont à l'automne. J'ai parlé au premier ministre Ford de l'Ontario en fin de semaine, très inquiet aussi, veulent collaborer. Ça prend des renseignements pour des corps policiers, ça prend possiblement des manufacturiers de voitures qui ont des nouvelles technologies qui peuvent s'appliquer. L'industrie de l'assurance, évidemment, a un rôle à jouer en termes de technologie aussi. Alors, nous allons réunir tout le monde ensemble à Ottawa. Les GRC vont être là avec nous, les services frontaliers.
Mais M. Leblanc, je comprends tout ça. Là, on réunit tout le monde. Là, puis, mais concrètement, pourquoi, selon vous, vous êtes le ministre fédéral là, de la Sécurité publique, pourquoi le port de Montréal est une passoire?
Parce que ça représente, évidemment, en termes d'importance pour les exportations, pas simplement des voitures volées, mais pour l'économie canadienne, le port de Montréal est une plaque tournante. On nous dit, c'est intéressant, tout le monde focus sur le port de Montréal comme un lieu où beaucoup de voitures volées sont acheminées à d'autres pays, et c'est vrai. Les services frontaliers peuvent faire davantage, peuvent amener d'autres technologies, peuvent faire davantage des inspections. On peut travailler avec des renseignements des corps policiers. Mais 40%, le commissaire de la GRC, M. Duhem, m'a dit 40% des voitures volées sont revendues au Canada. Alors, c'est un problème qui n'existe pas simplement à exporter à un port au Canada. Puis, c'est pas seulement le port de Montréal, d'ailleurs, qui est un point important dans ce trafic de voitures volées. Alors, moi, je pense que ce serait important d'avoir tout le monde ensemble pour avoir un portrait réel de qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Les corps policiers peuvent nous informer. Mais comment on peut travailler ensemble? C'est pas les services frontaliers au port de Montréal qui vont arrêter quelqu'un qui vole une voiture sur la rue à Outremont aujourd'hui. Alors, il faut qu'on soit ensemble enfin
Mais M. Leblanc, je comprends que tous les véhicules ne se retrouvent pas à l'étranger, mais il y en a quand même une bonne partie. Et visiblement, c'est relativement facile de sortir les véhicules du Canada.
Je suis pas tout à fait d'accord que c'est facile de sortir les voitures du Canada. C'est pas seulement le port de Montréal qui devient un problème. Mais est-ce que nous, comme gouvernement fédéral, on peut améliorer les technologies aux services frontaliers? Est-ce qu'on peut augmenter les inspections des containers qui sortent des ports? C'est sûr qu'on va le faire. Mais pour le faire d'une façon efficace, pour pas franchement freiner les exportations parfaitement légitimes qui sortent de ces ports-là, il faut le faire basé sur des renseignements que les corps policiers des grandes villes, des provinces vont partager avec les services frontaliers. On peut pas arrêter ce problème-là simplement au dernier endroit où les voitures quittent le Canada. Il faut le faire sur le terrain. Il faut le faire avec le crime organisé qui de plus en plus prennent de l'ampleur dans des grandes villes au Canada pour voler ces voitures-là et utiliser les revenus pour des affaires assez violentes.
Est-ce que les sentences de prison sont assez sévères pour les gens qui volent des voitures?
Moi, je pense que si vous êtes dans un syndicat de crime organisé transnational et vous êtes en train d'utiliser les recettes de vos voitures volées pour le trafic de la drogue, le trafic des armes de poing, oui, les juges... Quelqu'un qui fait partie d'un gang de crime organisé va faire face à une sentence importante. C'est pas une personne. De plus en plus, d'après ce que les corps policiers nous disent, c'est structuré, c'est organisé par le crime organisé. C'est ça qu'il faut attaquer.
OK. Je comprends que c'est organisé, là, mais en même temps, ce sont des sentences pas très sévères pour les gens qui sont arrêtés à voler des voitures.
Ben, écoutez, les juges, c'est pas le gouvernement fédéral qui décide les sentences dans chaque cas individuel.
Non, mais le gouvernement fédéral fait le code criminel.
Absolument, puis il y a des peines maximales de 10 ans, de 14 ans.
Qui sont jamais données.
Mais c'est pas les politiciens qui vont dire aux juges les procureurs, les avocats de la défense qui font un procès de sentence appropriée. Moi, je vous dis que nous allons mettre tous les efforts pour interrompre et arrêter ce problème important. Et les gens qui travaillent pour un syndicat de crime organisé et qui sont payés pour voler une voiture vont faire face à des peines sévères, c'est sûr. Mais il faut aussi arrêter et interrompre les patrons de ces syndicats criminels, souvent transnationaux. Eux autres vont faire face à des peines évidemment très sévères aussi.
Le Canada a pas une très belle image nécessairement quand on parle de crime organisé. Je voyais la semaine dernière là des Américains, une étude, vous allez me dire c'est le National Post qui rapporte ça, vous allez mettre des béboles, mais quand même, que le Canada est un paradis pour le crime organisé. Vous en pensez quoi?
Ben ça c'est exagéré, ça c'est pas un paradis pour le crime organisé. Dans mes discussions avec le commissaire de la GRC, lui ne parle pas comme ça. On a des relations étroites avec des corps policiers, que ce soit la Sûreté de Québec, les polices municipales dans les grandes villes. On s'y attaque. C'est un défi dans beaucoup de pays de l'Occident. Nous avons changé le code criminel précisément pour créer des offenses de faire partie d'un gang criminel. Mais on peut faire plus. On peut ajouter des effectifs, et d'ailleurs, c'est ça que j'ai l'intention de faire avec la GRC, ajouter des effectifs précisément pour attaquer les technologies changent, la façon que ces groupes, souvent, comme j'ai dit, transnationales, s'organisent, changent. Il faut qu'on donne des outils aux corps policiers qui sont appropriés, et moi, je pense avoir des bonnes nouvelles dans ce sens-là au cours des prochaines semaines.
OK, merci M. Leblanc, bonne journée.
Merci à vous, Michel. Au revoir.
Dominique Leblanc, le ministre fédéral de la Sécurité publique. On parle souvent de la DPJ, puis on le sait, il y a un roulement de personnel, on manque de personnel, la pression est énorme, les cas de signalement sont nombreux. Il y a des professionnels de la santé qui nous ont, sont entrés en contact avec nous pour nous dire que, pour ce qui est des Laurentides, il y avait des enjeux importants d'enfants qui étaient possiblement en danger et que malheureusement, pour toutes sortes de raisons, on n'avait pas assigné un intervenant ou une intervenante à leur dossier. J'en parle avec Isabelle Turmel, qui est directrice adjointe, service d'application des mesures et réadaptation à la DPJ des Laurentides. Madame Turmel, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Est-ce que c'est vrai d'abord que des enfants, au lieu des signalements et qui sont en attente là, qu'un intervenant, une intervenante soit nommée dans leur dossier, des enfants qui seraient potentiellement peut-être en mauvaise situation?
Oui, effectivement, c'est vrai, malheureusement. On a en fait 285 enfants au total qui sont sans intervenant actuellement à l'application des mesures. On a 74 enfants qui n'ont jamais eu d'épisode de service. Donc, l'évaluation est terminée. On a statué là, qu'on devait donner des services à ces enfants-là, puis ils sont en attente actuellement. Mais on a aussi 211 enfants qui sont en attente de réassignation parce qu'on a des intervenants qui ont quitté puis qu'on n'est pas capable pour le moment de réassigner ces enfants-là.
OK. Pour que ça soit... comprendre que ça soit très clair. Là. Il y a combien d'enfants au total là, qui n'ont pas les services auxquels ils ont droit?
285 enfants sur 4700 enfants suivis. Fait que ça fait 6%, pour que ce soit clair, le 6% des enfants qui devraient être suivis par la protection de la jeunesse des Laurentides à l'application des mesures sont actuellement en attente d'un intervenant.
OK. Moi, je préfère vous dire que 285 enfants qui sont en attente. 6%, ça a l'air petit. 285 enfants, c'est énorme.
Même un enfant, M. Arcand, c'est un enfant de trop.
OK. Pourquoi ces enfants-là n'ont pas accès à des services?
En fait, je vous corrigerai quand même un petit peu parce qu'ils ont accès à des services, ces enfants-là. Ils ne sont pas pris en charge par des intervenants de la façon habituelle de prendre en charge. Il faut comprendre qu'on a toutes sortes de personnels, en fait, là, dans nos équipes. On a des intervenants qui sont responsables des dossiers, mais on a aussi des éducateurs qui offrent de l'intensité de service, des auxiliaires familiales. On engage des étudiants qui viennent prêter main-forte, mais ces types d'emplois-là n'ont pas la responsabilité des dossiers. Fait que je veux quand même vous dire que les 285 enfants dont on parle, ça ne veut pas dire qu'ils sont sans service totalement, mais ils ne sont pas assignés à un intervenant responsable de leur dossier.
OK, je ne suis pas sûr de vous suivre là. Vous me dites qu'ils ne sont pas assignés à un intervenant, mais ils ont des services. Les services sont donnés, mais il n'y a pas un intervenant qui fait le lien, en fait, qui supervise ce qui se passe avec cet enfant-là.
En fait, il n'y a pas d'intervenant qui coordonne puis qui a la responsabilité légale du dossier, mais on déploie quand même des services pour assurer la protection de ces enfants-là. Puis on exerce une vigie constante sur ces 285 enfants qui nous préoccupent.
OK. Pourquoi ils n'ont pas d'intervenant? Parce que vous manquez de personnel?
Oui, effectivement, on manque de personnel. On a eu une augmentation de volumétrie vraiment importante, fait qu'on a beaucoup plus d'enfants à s'occuper. Là, depuis 3 ans, c'est 1264 enfants qui se sont ajoutés à la charge de travail des intervenants, l'application des mesures. Fait que 1200 enfants, c'est beaucoup d'intervenants supplémentaires que ça nous prend, puis on a de la difficulté à recruter puis à garder notre personnel en place actuellement.
On me raconte, on me donne des exemples là, que t'appelles pour au sujet d'un enfant qui a été par exemple évalué, on t'explique que la personne est partie en congé, qu'on n'a pas trouvé de remplaçant, que le TS, il n'y a pas de TS dans le cas de 3 enfants qui ont été hébergés. Autrement dit là, je vous dis pas qu'ils sont entre 2 chaises, mais pas loin.
Ben en fait, c'est sûr que c'est pas est-ce que c'est la dispensation de service optimale qu'on aimerait offrir? Assurément non. Mais on s'assure quand même d'exercer une vigie là, par les équipes en place, en multipliant les sites d'emploi sur ces enfants-là. Mais est-ce que c'est des services optimales? Puis est-ce que des enfants parfois, là, effectivement, quelqu'un qui appelle puis que l'intervenant n'est pas assigné à quelqu'un de responsable, ça arrive.
Est-ce que c'est propre à la région des Laurentides? Parce que j'ai fait une courte revue de presse. Peut-être en raison de l'augmentation du nombre de signalements que vous avez eus, là, puis d'enfants que vous devez prendre en charge. Mais ça a l'air plus dur dans les Laurentides que dans d'autres régions.
Ben, je pense que c'est une région, une situation, en fait, là, qui se reflète provincialement. Je peux pas vous donner de chiffres pour les autres régions, okay. Mais je sais, là, que c'est une situation qui est pas propre aux Laurentides. J'aimerais aussi préciser qu'on a des territoires dans les îles Laurentides, c'est grand. Puis on a quand même des territoires où ça va mieux, puis on a des territoires où c'est plus difficile le recrutement. Je pense à nos territoires qui sont situés particulièrement au nord, les Laurentides, Mont-Laurier, Sainte-Agathe, la situation là est plus difficile actuellement. On déploie nos équipes du sud là parfois pour aller prêter main forte puis s'assurer d'exercer une vigie, d'aller voir les enfants pour s'assurer de leur sécurité là.
Est-ce que vous avez un gros roulement de personnel, des gens qui arrivent, qui restent malheureusement pas longtemps, pour toutes sortes de raisons, la pression, on comprend là, que c'est un travail qui est difficile. Est-ce que le roulement de personnel, et c'est encore une réalité, ou ça a tendance à vouloir se stabiliser?
En fait, oui, c'est encore une réalité. On a encore du roulement. Toutefois, on voit quand même une amélioration là, depuis les dernières années. On a mis en place un programme là, pour vraiment soutenir les employés à leur arrivée. On a du marrainage là, qu'on appelle. Donc, on a des intervenants seniors qui accompagnent les intervenants dans tout ce qui représente les premières fois de la vie d'un intervenant en protection de la jeunesse. Première fois au tribunal, première visite dans une famille. On tente d'accompagner différemment puis de mieux soutenir nos intervenants pour favoriser la rétention. Puis on sent là, que ça porte fruit.
Je reviens pour conclure, là, parce que il y a des gens de chez vous qui nous écrivent, là. Puis évidemment, ils veulent pas être identifiés, puis je comprends ça, puis je vais parler de façon très générale, mais ce qu'ils nous disent, c'est que quand il n'y a pas d'intervenant au dossier, ça devient rapidement un bordel à superviser. Autrement dit, là, je comprends que vous faites un effort pour essayer de donner un peu de service dans la mesure où vous êtes capable, mais qu'en pratique, ce sont ces enfants-là qu'on risque malheureusement d'échapper.
Ben en fait, je comprends que nos intervenants soient préoccupés. Ça parle de tout leur engagement puis de la passion qu'ils ont pour les enfants puis de la préoccupation qu'ils ont. Ils nous le partagent d'ailleurs, leur préoccupation. En fait, est-ce que ça risque des enfants qu'on risque d'échapper? Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on exerce une vigie hebdomadaire. À chaque semaine, on se préoccupe. Les équipes, les gestionnaires se préoccupent de ces enfants-là. On les repriorise en continu. Est-ce qu'on aimerait faire mieux? Est-ce qu'on a besoin de plus de bras? Assurément. Mais moi, je trouve quand même que avec les moyens qu'on a, même si on fait pas tout ce qu'on souhaiterait faire, on fait beaucoup. Puis c'est grâce. Puis tu sais, j'ai le goût de le souligner parce qu'on parle beaucoup des employés qui quittent puis du roulement de personnel. Mais grâce aux employés qui sont présents, c'est quand même beaucoup d'enfants qui sont suivis et protégés. Puis ça, je trouve que ça mérite d'être souligné.
OK. Merci, Mme Turmel.
Merci, bonne journée.
Au revoir. Isabelle Turmel est directrice adjointe à la DPJ. Je vous le dis, beaucoup de commentaires, beaucoup de réactions. Puis il y a des gens de l'interne qui nous le disent. Je comprends qu'il y a des enjeux de personnel et tout ça. Mais il en demeure pas moins que pour la seule région des Laurentides, là, on parle de 285 enfants. Je veux bien que ça soit 6 ou 7 %, là, mais quand même, 285 enfants qui n'ont pas d'intervenant, d'intervenante, d'attachés directement au dossier. Et veut pas, ça a un impact direct sur la qualité de ce qu'on offre à ces enfants-là. Puis dans certains cas, on risque d'en échapper.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
Maintenant, on va parler de dépression, mais de dépression chronique. On sait qu'il y a des gens qui, malheureusement, se battent contre la dépression toute leur vie, des traitements qui ne donnent pas de résultats. On a eu tout ce débat sur l'aide médicale à mourir, non seulement pour les gens qui ont des maux physiques, mais pour des gens avec qui on a tout essayé. Donc, ça devient comme l'espèce de solution ultime à leur souffrance. Or, on apprend qu'il y a deux médecins québécois qui travaillent sur un traitement qui est encore peu utilisé au Québec, mais qui semble absolument prometteur. Et un de ces deux médecins est avec nous. C'est le docteur Nicolas Garel, psychiatre au CHUM et qui se trouve présentement à l'école de médecine de l'Université Stanford aux États-Unis. Docteur Garel, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
Parlez-moi d'abord de ce traitement là, sur lequel vous travaillez, qui combine la kétamine et, évidemment, la psychothérapie.
Donc, ben, premièrement, la kétamine qu'on a utilisée en médecine depuis des décennies, on l'utilisait comme un agent anesthésique. Dans les années 2000, il y a une étude qui est venue des États-Unis, de Yale, qui a démontré qu'à des doses subanesthésiques, donc à des doses beaucoup plus petites qu'on utilise en anesthésie, il avait un effet qui était antidépresseur. Ça a été une découverte absolument choc parce que des gens qui souffraient de dépression résistante, qui avaient essayé plusieurs antidépresseurs, plusieurs types de psychothérapie, qui restaient souffrants, avaient une rémission de leurs symptômes à l'intérieur de quelques heures. Le lendemain, ils se sentaient vraiment mieux. Le problème, c'est que cet effet antidépresseur-là est éphémère, ne dure pas très longtemps dans le temps et généralement après 7 jours, environ une semaine, les symptômes reviennent. Donc, on a commencé à travailler avec mon collègue Kyle Greenway un modèle un peu plus intégratif où on pourrait combiner ce traitement-là à de la psychothérapie pour venir profiter de l'effet antidépresseur rapide qui a un effet aussi pro-cognitif. Donc, les gens vont se sentir mieux, vont être plus aptes à réfléchir, à s'engager dans un processus psychothérapeutique pour que quand on arrête d'administrer ces traitements-là, ben la personne puisse se maintenir par les gains qu'on a eus au niveau de la psychothérapie puis de l'activation comportementale. Donc, c'est un peu un modèle qui combine une intervention pharmacologique très intéressante qu'on a avec la kétamine, mais pour le soutenir dans le temps avec une combinaison avec la psychothérapie.
Bon, je voyais en fin de semaine dans la presse le témoignage de quelqu'un qui a en fait qui a reçu ce traitement-là et qui avait des idées suicidaires et ça a pratiquement disparu tout d'un coup.
Ouais. Donc, on peut voir avec la kétamine a un effet qu'on dit anti-suicidaire. Il n'y a pas beaucoup d'interventions en psychiatrie qui vont vraiment avoir un impact aussi franc sur les idées suicidaires. On peut voir les idées suicidaires généralement s'améliorer quand on donne des antidépresseurs. Les gens, éventuellement, à travers les semaines, commencent à se sentir mieux. Même chose au niveau de la psychothérapie, où plus les gens s'améliorent au niveau dépressif, on voit les symptômes suicidaires diminuer. La kétamine, en tant que telle, a un effet qu'on dit anti-suicidalité. Donc, les gens peuvent voir leur idée suicidaire diminuer rapidement, même si au niveau dépressif, ils n'ont pas encore commencé à s'améliorer tant que ça. Donc, il y aurait un effet vraiment où on peut diminuer cette espèce de douleur psychologique, cette espèce de détresse de façon assez rapide où les gens, effectivement, on peut voir. C'est pas chez tout le monde que ça va marcher. Encore une fois, c'est pas une intervention miraculeuse, mais quand ça marche et les gens y répondent, on peut voir vraiment une diminution de la souffrance qui est très rapide.
Pourquoi c'est de courte durée? Pourquoi là, les gens qui écoutent ce matin vont se dire, ouais, mais si ça donne ces résultats, pourquoi est-ce qu'on le prescrit pas sur une plus longue période?
Donc ça, c'est une très bonne question, M. Arcan, puis c'est un peu on nage là-dedans. C'est assez nouveau encore. Il y a beaucoup de questions qui restent à répondre. Contrairement à un antidépresseur qu'on va prendre tous les jours, où on a des niveaux stables dans le sang, la kétamine, on va administrer ces traitements-là une fois ou deux fois par semaine pendant un court laps de temps. Puis la kétamine sort très rapidement du système. Puis c'est ça qui est intéressant aussi de réfléchir à comment ça marche à un niveau biologique, parce que contrairement à des médicaments qu'on prend tous les jours, il faut des niveaux stables. La kétamine, c'est un traitement qu'on donne. Le médicament est excrété du corps. On ne l'a plus, mais on reste avec les effets positifs. Donc, on croit que le mécanisme serait une augmentation de ce qu'on appelle la neuroplasticité. Donc, une augmentation au niveau de la communication des neurones, cet effet-là serait transitoire. Puis l'intérêt de, encore une fois, de le combiner avec la psychothérapie pour nous, c'est-à-dire dire, on va utiliser cet effet transitoire où le cerveau est plus apte à intégrer des éléments, faire des connexions, puis on va utiliser cette espèce de fenêtre-là où les gens sont plus prêts à apprendre des nouvelles choses pour maximiser ça avec la psychothérapie. Sinon, on est dans un contexte, si on est juste purement à administrer le traitement à l'extérieur de contexte psychothérapeutique, à devoir redoser les patients. Puis là, on est face à des enjeux où on ne sait pas encore c'est quoi les enjeux de sécurité, de tolérabilité, de redonner ce traitement-là de façon multiple.
Merci beaucoup, Dr. Garrel. Dr. Nicolas Garrel est psychiatre au CHUM et présentement donc en formation aux États-Unis. Et on sait que pour des gens qui ont tout essayé, ça demeure une voie d'espoir. Il y a encore bien des balises à mettre, puis c'est pas automatique, mais quand même, c'est une découverte importante et ça peut aider des gens pour qui il n'y a pas d'autre option. Et on le sait, là, l'aide médicale à mourir pour des gens qui ont cette dépression chronique, ça devient malheureusement pratiquement que la seule option.
C'est 23.